MFR On Air.
Bonjour à tous et à toutes. Pour en savoir plus sur le handicap invisible, aujourd'hui nous recevons Christine Auboin, qui est écrivain public, avec sa propre entreprise, La Muse et vous. Christine Auboin est atteinte de fibromyalgie, une maladie qui cause des douleurs constantes dans tout le corps et de fortes fatigues. Bonjour Christine.
Bonjour.
On sait que 3,4% des femmes et 0,5% des hommes sont atteints de fibromyalgie. Mais d'où vient cette maladie ? Est-elle génétique ?
Alors non, elle n'est pas génétique. On ne sait pas encore exactement d'où elle vient, malheureusement. On pense que c'est un dysfonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau envoie des messages de douleur au corps, puisque c'est lui qui commande en fait. Et ces messages font très mal en fait. Il dit, ben voilà, tu as mal à tel endroit, tu as mal à... Et c'est des messages qui sont amplifiés en fait.
Vous avez été diagnostiquée en 2016. Comment avez-vous vécu cette nouvelle ?
Très bien. Très bien, parce qu'en fait, avant, je ne savais pas ce que j'avais. J'avais mal partout, j'avais mal tout le temps. Je passais plein d'examens, beaucoup, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Et à chaque fois que je sortais d'examen, on me disait « vous n'avez rien ». Et moi, j'avais très très mal. Et je ne savais pas du tout ce que j'avais. Donc le jour où on m'a dit « vous êtes fibromyalgique », ça m'a soulagée. Bon, après, il y allait avoir des conséquences. Mais ça m'a soulagée énormément de pouvoir mettre un mot sur mes mots.
Nous savons que les médecins ont mis 3 ans pour trouver votre maladie. Comment l'ont-ils découverte ? Quels sont les symptômes ?
Alors, c'est souvent, en fait, une découverte par déduction. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on fait beaucoup d'examens. Et s'il n'y a rien dans ces examens, au bout d'un moment, on se dit, ben, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, il reste ça. Plus le terme exact, mais voilà, on a fait énormément. Il n'y a pas de prise de sang, par exemple, qui pourrait dire qu'on est fibromyalgique, ou un examen qui pourrait dire « Ah, là, il y a une épaule cassée, je dis n'importe quoi hein. ». Et du coup, c'est la fibromyalgie. Le problème de cette maladie, justement, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui permet de préciser exactement, avec un point précis, que c'est cette maladie. Et c'est ce qui gêne énormément, d'ailleurs, beaucoup de médecins. C'est pour ça que c'est long à trouver. Et on a encore beaucoup de médecins qui sont fibrosceptiques, c'est-à-dire qu'ils n'y croient pas, parce qu'il n'y a rien aux examens.
Si vous avez mal au quotidien, comment vous savez si vous aviez une autre maladie ou d'autres symptômes ?
Alors, c'est le problème des personnes fibromyalgiques, en fait. C'est que si demain, je me casse, par exemple, le poignet, disons ceci, ou plutôt l'épaule, puisque c'est l'épaule où j'ai le plus mal, eh bien, on ne saura pas. Parce que les médecins, si je vais aux urgences, je vais leur dire en premier lieu, ben voilà, je prends tant de médicaments, je suis fibromyalgique. Et ils vont se dire, ben vous êtes fibromyalgique, donc du coup vous avez mal, donc du coup vous n'avez rien. Et c'est vrai que le problème, c'est que les personnes fibromyalgiques, en fait, on leur fait rarement des examens complémentaires parce que ce sont des examens qui coûtent cher, déjà, il faut le savoir. Et puis aussi parce que la plupart du temps, il n'y a rien à ces examens. Donc on recommande en fait régulièrement certains examens sur une durée à peu près tous les 2 ans ou tous les 3 ans.
Est-ce qu'il existe des traitements pour guérir la fibromyalgie ?
Alors la fibromyalgie ne se guérit pas. Il y a des stades, il y a 3 stades. Un premier stade où on peut faire des choses, réaliser des choses, avoir mal, mais vraiment mal partout, hein, mais réaliser des choses. Un deuxième stade où on ne peut plus, on est fatigué, on est obligé d'arrêter de travailler ou de travailler à mi-temps. Et un troisième stade qui est très très difficile, où on est pris en charge là par le centre antidouleur, qui contrairement à son nom est un centre qui apprend à gérer la douleur et qui n'arrête pas la douleur en fait. Donc on peut passer d'un stade à l'autre, le plus difficile étant de revenir vers un stade plus facile. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais en tout cas, la fibromyalgie ne se guérit pas, par contre il y a des périodes de rémission. Et surtout, là où il faut faire attention, c'est qu'il y a des périodes où on est super bien. Moi, dernièrement, j'étais à un concert, j'étais très très bien. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas reprendre nos anciennes habitudes, jamais. Parce que le problème, c'est que la fibromyalgie, elle va retaper encore plus fort, elle va faire encore plus mal et ça sera encore plus douloureux. Donc on est devenu une nouvelle personne et il y a des belles choses aussi dans cet état. Donc il faut en profiter.
Vous êtes à quel stade ?
Je dirais 2,5. J'étais à 3 pendant un certain temps et j'ai réussi quand même à passer à 2. Très difficilement, ça a mis longtemps parce qu'en plus des douleurs, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire le moral qui est à 0 parce que personne ne nous croit, on n'a pas de plâtre, on n'a rien. L'année dernière, mon mari s'est cassé l'épaule, il a eu une quadruple fracture. Donc il avait une attelle et à chaque fois qu'on allait quelque part, c'est moi qui le conduisais, j'avais très mal, mais moi je n'ai rien de visible. Chaque fois qu'on allait quelque part, les gens disaient « Oh là là, mon pauvre monsieur, comme vous devez souffrir !» À savoir que mon mari est très résistant à la douleur, donc il ne souffrait pratiquement pas, alors que moi je souffrais le martyr et à moi on ne me posait jamais la question. Ça, c'est dur à vivre.
Vous ressentez beaucoup de douleur, alors comment se passe votre quotidien ?
Alors, le pire, c'est que la douleur, on s'y habitue. C'est-à-dire que la douleur que j'ai actuellement, je pense que vous ne pourriez pas la supporter. Mais on s'y habitue. On arrive, en fait, à vivre avec cette douleur tant qu'elle n'est pas épouvantable. Au niveau du quotidien, c'était la question. Malheureusement, je me lève, alors malheureusement, entre guillemets, bah si, pour ma famille quand même, et même pour moi. Je me lève assez tard parce que le matin, j'ai un cachet, il faut le temps que mon corps se remette en marche, que mes muscles, on dirait une mamie en fait de 90 ans. J'embrasse toutes les mamies qui ont 90 ans et même plus, hein, mais seulement moi, j'en ai pas encore 52. Et du coup, voilà, mon corps, il ressemble un petit peu à celui d'une mamie de 90 ans. Donc le temps que tout se remette en place, il me faut... Ma journée commence à 11h du matin, pas avant.
Vous avez dû aménager votre maison. Pourquoi et comment vous l'avez aménagée ?
Alors, je n'ai pas aménagé au niveau mettre un ascenseur ou des choses comme ça pour l'instant. J'ai des difficultés à monter à l'étage. Et là, je suis très malheureuse, non pas par rapport à mon lit, parce qu'on trouvera toujours une solution. C'est parce que j'aime beaucoup lire. Je suis écrivaine aussi. Et à l'étage, j'ai plein de livres. Donc, ça, c'est un grand malheur pour moi le jour où je ne pourrai plus monter. Par contre, on a fait en effet des aménagements qui ne sont pas toujours évidents à comprendre pour ceux qui n'ont pas mal. C'est-à-dire que tout est à ma hauteur. Donc quand on vient chez moi, eh bien, on voit tous les papiers, tous les documents, c'est tout à ma hauteur. Et puis au début, mon mari se faisait un petit peu avoir parce que c'est lui qui prépare à manger, j'ai beaucoup de chance. Et eh bien, il laissait les casseroles en hauteur ou en bas. Et pour moi, une casserole, c'est très très lourd et j'avais du mal à aller chercher une casserole. Ça peut paraître idiot, mais c'est vrai que quand on souffre totalement, ben, des fois, je ne mangeais pas à cause de ça.
Vous avez des douleurs constantes, comment faites-vous dans les lieux publics ?
Les lieux publics, c'est toujours difficile pour moi. Alors, je crois que le pire, c'est les cérémonies des vœux. Parce que tout le monde vient me souhaiter une bonne année, ce qui est très très gentil d'ailleurs. Et puis bon, c'est réciproque la plupart du temps. Mais quand les gens viennent vous souhaiter une bonne année, ils viennent, puis vous savez, ils vous tendent la main, et puis ils vous caressent l'épaule, ou ils vous tapent sur l'épaule. Et c'est là où moi, j'ai le plus mal. Alors, je me tourne un petit peu dans tous les sens. J'ai toujours un petit peu une hantise. Puis bon, au bout d'un moment, on se dit que c'est pas méchant, donc tant pis. C'est vrai que j'essaye au maximum d'éviter les lieux publics où il y a trop de public. Par contre, quand il y a un concert notamment, je demande en amont. Je dis, ben voilà, je suis une personne en situation de handicap, il est invisible. Qu'est-ce que vous avez pour ces personnes-là de prévu ?
Et comment vous faites du coup pour faire vos courses, aller au cinéma ?
Je les fais pas. non, mais... Alors j'ai une chance extraordinaire, c'est mon mari qui fait les courses en plus de faire la cuisine, on saura tout aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand il avait le bras cassé, c'est moi qui l'emmenais pour faire les courses et plusieurs fois j'ai été obligée de retourner dans la voiture parce que j'avais trop mal. Quand son papa est parti, malheureusement, donc on est resté à la maison avec ma fille, j'ai fait les courses à ce moment-là. Et j'avais une dame qui m'a aidée, enfin j'avais pratiquement honte, parce qu'elle avait quoi, 70 ans, et elle m'aidait à attraper une boîte de conserve que moi je n'arrivais pas à attraper du haut de mes 50 ans. Mais elle était adorable, hein. Elle voulait faire les courses avec moi dans le magasin, c'était super gentil.
Vous êtes allée au concert de Patrick Bruel au spot de Mâcon, comment cela s'est passé ?
J'en profite pour l'embrasser si jamais il nous écoute, hein. Patrick, on était au 12e rang au début. Alors, à la base, on nous avait dit qu'il y avait un accès pour les personnes en situation de handicap, qu'il n'y aurait pas de problème, etc. Donc, on nous l'a même écrit, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et en fait, heureusement qu'on était dans les premiers pour pouvoir entrer, puisque moi, j'ai vu personne de la sécurité, c'était la Croix-Rouge normalement qui devait être là. Et en fait, je les ai vus au bout de 200 mètres. Puis bon, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, je me suis dit, bah, je vais finir toute seule, c'est pas la peine. On m'avait dit qu'ils me prendraient en charge, mais bon... J'ai pas été prise en charge. Le plus dur, ça a été les places qui normalement sont assises. Il faut savoir que quand on va dans ce lieu de spectacle, il y a des places assises qui sont devant et qui sont d'ailleurs assez chères. Et ben, c'est un concert de Patrick Bruel. Moi, c'est vrai, j'ai pas fait tilt. Tout le monde se lève à la première chanson et tout le monde fonce vers l'artiste et c'est normal. Le souci, c'est que quand on est en situation de handicap, on a beaucoup de difficultés pour pouvoir rester debout. Donc moi, je me plains pas trop. Parce que le lendemain, j'ai pris des médicaments, je ne les citerai pas, je ne pense pas que j'ai le droit de citer des marques ou quoi que ce soit, assez fort pour pouvoir calmer la douleur, mais je l'ai vu l'artiste, je l'ai vu, parce que je me suis approchée, ça a été difficile, mais je l'ai vu. Mais il y avait notamment une petite fille qui était en chaise roulante, et elle n'a rien vu du spectacle. Donc ça, c'est dommage. Et puis j'en profite pour interpeller les salles de concert pour justement prendre en charge toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles, de façon à ce que tous les gens puissent vraiment voir le concert. C'est normal. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres, je trouve.
Votre handicap est invisible. Comment les gens peuvent s'en rendre compte ? Est-ce qu'ils vous comprennent ?
Alors les gens vont s'en rendre compte parce que parfois je boite, parfois j'ai du mal à écrire, et puis tout simplement parce que je le dis. Avant, je n'osais pas en parler parce que j'avais peur de perdre mon travail. Bon, depuis, j'ai perdu mon travail, enfin l'ancien, donc maintenant j'en parle. Et puis au contraire, ça permet de faire connaître la fibromyalgie, qui est une maladie qui était quand même assez méconnue. Ça fait pas très longtemps en fait qu'elle est connue. Au niveau des personnes, c'est soit elles comprennent, soit elles ne comprennent pas. Donc j'ai des gens qui ne me parlent plus. C'est très dur à vivre. On m'avait prévenu au centre antidouleur. Le plus dur à vivre, je pense, c'est certaines personnes de ma famille. Donc parfois, certains professeurs qui connaissent bien la maladie disent que c'est parce que ces gens ont peur de la mort ou ont peur qu'on souffre. Donc ben, j'en profite pour faire un appel, hein. Ils se reconnaîtront s'ils écoutent l'émission. Moi, ma porte, elle est toujours ouverte, même si les gens ne me parlent pas. Même s'ils n'ont pas envie d'en parler, ils peuvent venir dire bonjour, c'est pas un problème.
Êtes-vous parfois gêné par le regard des autres ?
Oui et non. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la réponse que vous attendez, mais je vais répondre autrement. En fait, je suis souvent gênée parce que mon handicap est invisible et du coup, je me dis, et je pense que c'est ce que pensent les autres aussi, j'ai pas le droit à ça. Je n'ai pas le droit parce que je ne souffre pas assez ou parce que je ne suis pas en chaise roulante ou parce qu'il y a une personne qui souffre bien plus que moi. Et du coup, en fait, je me mets des barrières où les personnes valides mettent aussi des barrières et je ne l'accepte pas. Et moi-même, je me mets des barrières. C'est pas très logique dans un sens. Donc oui, je suis un petit peu gênée, mais par le regard des autres et par mon propre regard. C'est catastrophique, non ? Ça devrait pas, en fait. Hein.
Êtes-vous souvent victime de discrimination ?
Oh oui. Oui, alors bah, tout le temps, en fait. Je n'ai pas encore demandé ma carte de... J'ai mangé le terme, en fait, quand on a des difficultés à se déplacer pour passer en priorité aux caisses. Mais j'ai des amis qui sont dans mon cas et dès qu'ils sortent leur carte de priorité, ça y est, j'ai le mot, ils sont regardés de travers parce que c'est pas normal, pourquoi vous passez en priorité et tout. Et c'est vrai qu'en fait, quand on me voit, pour ceux qui étaient au concert avec moi, ils vont se dire, non mais cette dame-là, elle était en pleine forme, je l'ai vue, elle a tapé dans ses mains, c'est vrai. Par contre, après, j'ai eu 2 jours épouvantables. Je tenais pas, je peux plus rien faire après. Ce que je dis souvent pour qu'on essaye de comprendre, c'est qu'une journée chez une personne entre guillemets normale, pour moi ça peut aller jusqu'à une semaine pour faire les mêmes activités.
Vous avez quitté la fonction publique en septembre 2018 pour devenir écrivain public. Cela n'a pas été trop dur de vous réorienter ?
Alors en fait, l'avantage entre guillemets du handicap, c'est que ça permet de s'ouvrir sur d'autres choses. Parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Et on est obligé de s'ouvrir sur autre chose si on ne veut pas couler. Je parlais tout à l'heure un petit peu d'instants dépressifs, il y en a eu beaucoup. La fonction publique, c'était pour moi plus, comment dire, une bouée de sauvetage, c'est-à-dire qu'on touche un salaire, il faut dire ce qui est, on touche un salaire tous les mois. Et je faisais très bien mon travail, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais mon poste n'a jamais été aménagé malgré toutes les demandes qui ont été faites par les médecins du travail, etc. Donc à un moment, moi j'ai été placée en disponibilité d'office et je ne pouvais plus retourner à mon poste. Et finalement, je suis plus heureuse actuellement dans ce que je fais, même si je gagne bien moins ma vie, il faut quand même le dire. Mais je suis vraiment, vraiment plus heureuse dans ce que je fais parce que c'est vraiment ce qui me ressemble. C'est-à-dire c'est l'humain, le partage, l'échange, voilà, cette émission de radio, etc. C'est vraiment ce que j'aime faire. Avant, je faisais de la compta. Je fais un petit coucou à tous les comptables, hein, il n'y a pas de souci. Mais j'ai remarqué que souvent les comptables avaient une activité secondaire, notamment ils faisaient du théâtre, ils faisaient enfin, plein de choses parce que la compta c'est sympa. Mais bon, je préfère ce que je fais.
Vos journées ne commencent pas avant 11h. Est-ce que ça a été difficile pour vous de monter votre propre entreprise ?
Alors l'avantage avec l'Amusez-vous, c'est que je suis mon propre patron. Je serais quand même un petit peu culottée, si vous me permettez l'expression, de me dire « Oh, je t'aménage pas tes horaires ». Donc je m'aménage mes horaires. Par contre, en effet, c'est difficile par rapport au regard des autres. Vous m'en avez parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que souvent on me dit « Je veux pas te faire de préférence par rapport à toi, par rapport à une autre entreprise ». Alors que ben, si, du coup, vu que moi, ma journée, elle fait déjà une demi-journée, automatiquement, par rapport à une autre entreprise, c'est une discrimination. Si on me tend pas la main pour quelque chose, c'est plus difficile pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Au fur et à mesure, on va arriver à montrer aux gens, à leur expliquer que c'est pas évident et que il y a des choses à faire et elles vont se faire.
Que faites-vous pendant vos journées de repos? Est-ce que vous allez souvent à l'hôpital?
Alors, j'ai pas de journée de repos puisque je suis mon propre patron en fait, donc je travaille comme je veux, mais j'ai des moments de repos. À l'hôpital, j'y vais une fois tous les 6 mois obligatoirement, avec des petits séjours parfois d'une semaine. J'ai eu un séjour cet été d'ailleurs qui n'était pas prévu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la France était prioritaire, enfin c'est pas le mot prioritaire, en matière de douleur, c'est-à-dire que c'est elle qui avait commencé à étudier la douleur. Elle n'est pas si ancienne que ça, l'étude de la douleur, c'était pas important avant. Hein. C'est vraiment très très récent, c'est il y a 20 ans ou 30 ans, c'est vraiment très très récent. Et malheureusement, pour des raisons pécuniaires, hein, ce que je peux comprendre dans un sens, mais quand on a mal, on comprend moins bien. Pour des raisons pécuniaires, les centres de douleur vont disparaître au fur et à mesure. Donc c'est une situation qui est catastrophique, je trouve, et je pense qu'il faudra en parler parce qu'il n'y a pas que la fibromyalgie, il y a plein de choses qui est axées par rapport à la douleur. Moi, mon médecin était en arrêt et ça, c'est pas un problème, mais seulement elle n'a pas été remplacée pendant 1 an. Là, ça devient un souci.
Vous êtes un écrivain public, qu'est-ce que cela signifie?
Alors, j'écris pour les autres, mais en me mettant dans leur peau. C'est-à-dire, je vais leur faire des courriers, je vais leur faire des lettres d'amour s'ils veulent aussi. Je vais les aider à écrire un livre s'ils le souhaitent. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est moi qui vais faire le courrier, c'est moi qui vais taper. Mais en même temps, je vais discuter avec eux avant de façon à comprendre leurs sentiments et à comprendre la façon dont ils souhaiteraient que le courrier soit écrit. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, celui-là je l'aime bien. Disons qu'une personne a oublié de payer ses impôts et hop, 10% de pénalité. Donc elle va arriver, elle va venir me voir, puis elle va me dire « je suis pas contente du tout, j'ai eu 10%, ils sont pas sympas, je vais faire une lettre en colère et tout ». Donc moi, je vais lui expliquer que si on met trop de mots colériques dans son courrier, elle aura pas obligatoirement de réduction, bien au contraire. Donc on va essayer de faire le courrier tout en même temps en respectant sa situation de colère, c'est-à-dire que je vais faire son courrier en mettant voilà, qu'elle n'est pas contente, qu'elle ne l'a pas fait exprès, etc., qu'elle demande une exonération de 6% à titre exceptionnel. Mais si elle veut vraiment continuer sur la colère, il y aura des personnes par exemple qui feront juste un courrier tout doux, tout gentil, parce que me diront non mais moi c'est vraiment de ma faute et tout, et bien on ira dans ce sens-là. Je vais vraiment me mettre à la place des personnes.
Vous intervenez souvent auprès d'enfants dans les écoles, ça vous apporte quoi?
Ah ça, c'est mon moment préféré. La question est très bonne parce que c'est en effet, ça m'apporte à moi. J'interviens pour leur expliquer des choses, j'interviens en tant qu'écrivain, comment on écrit un livre, etc. J'interviens aussi beaucoup sur l'espace, mon sujet de prédilection. Et en fait, à chaque fois, j'ai des enfants qui découvrent des trucs, notamment qu'on n'a pas encore marché sur Mars, c'est toujours étonnant ça. Et quand je leur explique des choses, quand je leur dis que je connais Cyprien Verseux, je lui fais un petit coucou, ils me disent « non mais c'est pas vrai ». Donc je leur dis « bah si si, donc, je vous laisserai aller regarder pour voir qui c'est ». Et ils ont les yeux qui brillent et je trouve ça étonnant, je trouve ça génial et ils m'apportent encore plus que moi je leur apporte, je trouve. Ils m'apportent cette part d'enfance que je n'ai pas perdue, j'espère en tout cas, et qu'eux ont encore.
Vos 3 livres vous ont-ils permis de vous épanouir?
Ah, complètement. Ils ont été édités dans le désordre, mais à la base, j'étais simplement chroniqueuse, c'est-à-dire je chroniquais les livres des autres, hein, je disais ce que j'en pensais. Je dis jamais de mal, hein, donc si je n'aime pas, je ne chronique pas, c'est tout. Et puis bon, bah, quand j'aime bien, alors là, on voit, je m'emporte parfois. Et j'ai fait aussi des vidéos. Et je me disais, chacun son métier, je ne serai jamais écrivain, ce n'est pas pour moi. Puis bon, il y a aussi des gens qui me l'ont dit, donc parce que le métier n'est pas toujours facile. Et un jour, j'ai envoyé une nouvelle à une maison d'édition et j'ai été retenue. Et là, je me suis dit, du coup, c'est que c'est bon, c'est que je peux le faire, je sais le faire. Donc du coup, je suis partie complètement. Et là, le soir de cette interview, il va y avoir posté sur le poste d'un passionné, quand je dis passionné, mais vraiment passionné, de l'espace. Il s'appelle Stéphane Sébille. Il a rencontré Thomas Pesquet. On peut aller sur son site, c'est vraiment le passionné. Il a lu mon livre, il m'a dit que c'était vraiment un livre remarquable. Donc vraiment, quand c'est un passionné d'espace qui dit ça, au niveau de la vulgarisation, qu'il était vraiment très très bien, il m'a proposé de faire un post sur sa page. Donc j'étais vraiment, je me permets, hein, mais j'étais comme une enfant. On a parlé d'enfant tout à l'heure, donc j'étais comme une enfant. Et quand je vais lire ce soir, je crois que je vais être encore plus youpi, youpi, youpi.
Vous êtes suivi par une équipe de pluridisciplinaires. Qu'est-ce que c'est? À quoi cela vous sert dans votre métier?
Une équipe pluridisciplinaire, d'abord, c'est plusieurs personnes. C'est-à-dire, on a un médecin algologue, un médecin antidouleur, en fait. On a un psychologue. Alors, c'est une sage-femme, c'est toujours étonnant, qui fait du toucher empathique, parce qu'elle a été formée pour ça. C'est des massages doux, en fait. Donc ça s'appelle du toucher empathique avec de l'empathie en fait. C'est-à-dire qu'on échange entre nous, c'est très très bien. Et c'est une sage-femme, c'est toujours étonnant de savoir que c'est une sage-femme. J'ai eu des séances d'hypnose, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, ça me sert énormément parce que ça me permet justement d'avoir ce recul que je n'avais pas avant, où c'était toujours pourquoi ça m'est tombé dessus, pourquoi c'est moi, et pourquoi je vais perdre mon travail, et pourquoi, et enfin plein de choses comme ça. Ça permet de tourner la page et puis justement d'amener des projets. Dans la vie, il faut toujours amener des projets, quoi qu'il arrive. Tant qu'on est vivant, ben, on peut toujours avancer. Et grâce à cette équipe, que je remercie d'ailleurs, c'est, si je puis me permettre, c'est le centre de la douleur de Mâcon, qui est vraiment une super équipe. Moi, j'ai pu, et je pense que d'autres personnes aussi, j'ai pu remonter la pente parce que j'étais vraiment très très bas.
Quel est votre projet pour l'avenir? Comptez-vous réécrire un livre? Avez-vous de nouveaux projets?
Mais oui. Alors, mon livre, normalement, j'essaye de faire en sorte qu'il soit lisible pour tous. Alors, j'ai toujours d'ailleurs une association de promotion de la lecture et je fais en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la lecture. Donc j'aimerais bien qu'il soit traduit en braille. C'est un gros projet que j'ai pour que justement l'accès à la lecture puisse être traduit pour tout le monde, qu'on puisse pouvoir avoir cet accès. Et comme il est aussi l'espace notamment un petit peu compliqué pour celui qui n'est pas fan de spatial ou même les personnes qui ont un petit peu des difficultés de lecture, je voudrais aussi le faire plus simple, plus ludique, avec des dessins encore plus sympas, qui seront des dessins de ma fille d'ailleurs, pour le peu, qui dessine assez bien. Donc voilà, il y a encore d'autres projets, il y a un livre sur le harcèlement qui va sortir très prochainement, au mois de mai. Je fais une conférence avec les parents d'élèves de Châtillon-sur-Chalaronne, du collège de Châtillon-sur-Chalaronne, c'est le 23 mai, si jamais le soir. Et puis voilà, j'ai plein de projets en fait. Et puis toujours écrivain public. Le principe, c'est d'échanger avec les gens et puis d'aider. C'est ce que j'ai fait en fait toute ma vie, mais je ne m'en rendais pas compte. Maintenant, je m'en rends compte et je trouve ça bien. Ah, j'ai oublié. J'ai rejoint une association Fibromyalgie SOS et je vais aller pour les journées de la fibromyalgie. C'est le 12 mai, pour la journée mondiale de la fibromyalgie. Je vais aller répondre à des questions. Donc, je serai à Dax avec les collègues de cette association. Et puis, je suis formée. Là, j'ai 30 heures de formation. Je suis formée à pouvoir répondre au téléphone. Donc, tous les gens, en fait, vont pouvoir téléphoner. Alors, pas me téléphoner, c'est sur mon numéro de personnel, bien sûr, ils vont téléphoner au siège de l'association et je serai une des personnes qui pourra répondre aux gens qui sont fibromyalgiques et qui se posent des questions.
Merci beaucoup à Christine Auboin d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur son site internet www.lamusezvous.com.
Merci beaucoup à vous et merci pour tout ce que vous faites.
C'était MFR On Air. Une émission réalisée par les élèves de première de la Maison Familiale Rurale de Pontvel en atelier avec Radio Aléo. Retrouvez toutes les émissions sur notre site internet radioaléo.fr.